RCF.
Le 11-12 en Auvergne.
RCF Haute-Loire.
RCF Allier.
RCF Puy-de-Dôme.
Laurent Chauveau.
Bonjour, le temps de cette émission, nous avons installé notre studio, le studio de RCF en Auvergne à Pignolet, sur la commune d'Orcines, sur le Puy-de-Dôme, et ce à l'occasion du congrès national de la pastorale du sport qui se tient jusqu'à dimanche. Et durant cette première demi-heure, eh bien, nous allons vous présenter ce congrès, les moments importants. Je serai le père José Miguel Fraga Cardozo, qui est le responsable d'Église et Sport au Vatican. Sera également avec nous le père Grégoire Cata, directeur du service national famille et société de la CEF. Nous allons donc parler bien sûr de sport, mais aussi de foi, d'évangélisation à travers la pratique sportive. Je vous invite donc à rester avec nous jusqu'à 12h30. Bonjour père Pascal Girard.
Bonjour.
Vous êtes prêtre sur le diocèse de Clermont et vous êtes un des organisateurs de ce congrès national de la pastorale du sport. À vos côtés, le père Timothée Lambert. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes prêtre, c'est sur le diocèse du Mont, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, vous êtes prêtre, aumônier diocésain des Scouts de France, également marathonien. Nous allons y revenir dans un instant. Père Pascal Girard, quels sont les objectifs que vous êtes fixés à travers l'organisation, justement, de ce congrès?
Alors, c'est le quatrième congrès qu'on organise à Orcines. Donc, ça a évolué au fur et à mesure des congrès. Là, on est vraiment dans la perspective des Jeux de Paris 2024. Et aussi de voir aussi plus loin pour, entre guillemets, installer aussi la pastorale du sport dans les différents diocèses de France.
Alors pendant que nous parlons, ça travaille dur, juste au rez-de-chaussée du Pignolet, justement, qui participe actuellement à ce congrès?
Alors on a une trentaine de participants sur l'ensemble des trois jours. On a notamment trois évêques qui sont présents, les trois qui sont vraiment en lien avec la pastorale du sport. Monseigneur Gobillard, qui est le délégué du Vatican pour les Jeux Paris 2024. Monseigneur Blacard, qui est l'évêque accompagnateur d'Église et Sport au niveau de la Conférence des évêques de France, et Monseigneur Marseille, qui accompagne la proposition Oligem. Et puis des prêtres, des laïcs qui sont impliqués soit à la FSCF, soit dans les diocèses au niveau de la pastorale.
Et justement, je disais que vous étiez responsable de la pastorale du sport sur le diocèse de Clermont. Est-ce que tous les diocèses ont une pastorale du sport? D'ailleurs, je vais peut-être poser la question au père Timothée, justement.
Alors aujourd'hui, à ma connaissance, non, pas sur le diocèse du Mans, en tout cas. Voilà, c'est des questions qui sont intéressantes, mais il n'y a pas de choses constituées.
Et alors, on parle d'église et sport. Des fois, ça peut surprendre. Vous le comprenez pas, Pascal Girard, d'associer les deux, église et sport?
Ben en fait, on devrait pouvoir associer église avec beaucoup de choses. Et notamment, ben, l'idée, c'est quand même que l'église est présente à la vie du monde, à la vie des personnes. Et le sport est devenu un élément essentiel dans notre société, avec ses bénéfices, mais aussi ses excès. Et nous avons à être présents pour aussi accompagner ceux qui se posent des questions sur la foi.
Justement, que vous apporte à vous, père Pascal Girard, le sport, la pratique d'un sport?
Ça m'apporte un certain équilibre. Et je dirais que, entre guillemets, la foi pour, enfin, le sport est pour moi à la fois un aspect de m'entretenir, mais aussi d'entrer en relation avec l'autre. Parce que c'est pas simplement je fais du sport pour moi, mais aussi je fais du sport avec les autres et aussi un lieu de témoignage.
Et pour vous, père Timothée Lambert, alors que vous apporte la pratique du sport de la course à pied?
Eh bien, c'est aussi une question d'équilibre, et puis un besoin de faire de l'activité, d'être dehors, de vivre des choses aussi avec, là en particulier dans les compétitions, l'atmosphère, le fait de vivre cette expérience avec d'autres, et puis ça nourrit aussi la vie spirituelle. Enfin, il y a des liens,
il y a des similitudes.
Oui.
Et pourquoi alors justement vous avez choisi la course à pied, longue distance? Vous aimez vous faire mal, excusez-moi de cette expression, père Timothée Lambert?
Alors non, pas du tout. Alors la longue distance, c'est venu un peu, la première fois que j'ai couru un 20 km, c'était au séminaire, je n'étais pas sûr de terminer. Puis à la fin du 20 km, j'ai décidé de courir un marathon, et puis quelques années plus tard, je suis tombé par hasard sur l'existence des 100 km sur Internet, et alors ça m'a parlé. Voilà, il y a quelque chose qui me parle, je ne saurais pas très bien dire pourquoi, mais sur le, sur le pas seulement la longue distance, mais aussi le longtemps. En fait, ça, c'est des courses où on a le temps. Où, enfin voilà, il y a quelque chose, je trouve, qui est inspirant. Mais après, je ne vais pas au-delà. Ça ne me parle pas au-delà. Je ne saurais pas dire pourquoi.
Mais il y a quelque chose de paradoxal. Faut que vous nous parlez de temps, prendre son temps. Mais on sait que les prêtres ont peu de temps. Alors comment faites-vous? Comment s'harmonise justement votre vie de prêtre et votre vie de sportif? Comment arrivez-vous à trouver du temps justement? Vous libérez du temps pour pratiquer du sport?
Alors moi, je reprendrais bien une expression de la Bible, il y a un temps pour tout, et on est des prêtres et on a un corps comme les autres, et donc c'est important de prendre soin de son corps pour pouvoir, entre guillemets, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et si on ne respecte pas son corps, si on ne respecte pas son âme, on ne pourra pas être bien et pouvoir servir.
Vous êtes d'accord avec les propos du père Pascal Girard, père Lambert?
Oui, tout à fait d'accord. J'entendais un évêque dire il n'y a pas très longtemps, voilà, j'ai besoin de dormir pour être, c'est bon pour tout le monde. Et moi, je pense que c'est pareil. Alors, pour dormir, c'est vrai aussi, mais pour le sport, c'est aussi, je pense que pour pouvoir être au service, voilà, j'ai besoin d'avoir cette dimension aussi.
Mais quelles sont justement les réactions de vos paroissiens quand ils apprennent que vous êtes marathonien, que vous avez participé à des courses longue durée sur 100 km? Il y a de l'admiration, il y a également un certain questionnement et certaines interrogations?
Ben, je crois qu'ils se sont fait une raison, parce que au début, alors je fais aussi du vélo, alors j'ai des paroissiens qui sont terrifiés parce que en vélo on peut se faire écraser, enfin on peut avoir des accidents. D'autres, je cours, donc c'est attention à la crise cardiaque. Je fais de l'aviron, ben, je vais me noyer.
On prend soin de vous, c'est déjà bien.
Ben, donc au début, ça a été beaucoup exprimé sur les craintes. Voilà, on n'a pas beaucoup de prêtres, donc attention. Et maintenant, je crois que c'est rentré. Voilà, ils savent que ça fait partie de la personnalité de leur curé. Donc,
Père Pascal Girard, on entend quelquefois parler de sport et d'évangélisation. Le sport est justement lié à l'évangélisation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, il y a à la fois l'évangélisation, mais aussi l'accompagnement, parce que l'Église n'est pas simplement dans le sport pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour accompagner les sportifs chrétiens, parce qu'il y a de nombreux sportifs chrétiens, de nombreux champions chrétiens. Et c'est vrai que à notre époque, tout particulièrement, entre guillemets, les sportifs sont accompagnés surtout sur la diététique, sur le coaching, etc. Mais il y en a beaucoup qui se posent la question de l'aspect spirituel. Et souvent, ils ne sont pas accompagnés. Et c'est vraiment un élément essentiel de pouvoir accompagner les athlètes, mais aussi d'être témoin. On est appelé à annoncer la bonne nouvelle. On n'a pas sélectionné. C'est un petit peu comme le semeur dans l'évangile. Il sème un peu partout.
Père Timothée Lambert, vous nous disiez précédemment que sur le diocèse du Mont, il n'y a pas de pastorale du sport. Alors pour quelle raison vous avez souhaité participer à ce congrès national de la pastorale du sport?
Bien, parce que c'est un sujet d'intérêt. Alors moi, j'ai conscience, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas faire, mais je trouve que c'est et qu'il y a peu cette culture, en tout cas parmi les prêtres, me semble-t-il, dans le diocèse, ou en tout cas c'est balbutiant. Et donc, je cherche un peu à me laisser inspirer. Voilà, j'ai pas d'idée très très définie, mais je pense que c'est aussi en vivant une certaine formation, en échangeant les idées, que petit à petit, des choses peuvent se mettre en place.
Père Pascal Girard, le temps passe très très vite. J'aimerais par contre que vous nous parliez un petit peu de l'album de chansons Peuple de Champions que vous allez présenter, ou que vous avez déjà présenté lors de ce congrès. C'est un premier album de chansons chrétiennes sur le sport.
Oui, effectivement, j'ai sollicité différents compositeurs chrétiens pour avoir un répertoire de chansons chrétiennes sur le sport, notamment pour animer des temps de prière à l'occasion d'événements sportifs. Donc cet album avec notamment Mathilde et Paul qui sont du diocèse, mais aussi des compositeurs assez connus comme Patrick Richard, Marie-Louise Valentin, Laurent Gibowski, etc. Et donc cet album devrait sortir normalement début février.
Eh bien, on va écouter le titre « À vos marques » interprété par Marie-Louise Valentin et Georges Goudet. Merci beaucoup, Père Timothée Lambert, et merci beaucoup, Père Pascal Girard. Bon congrès.
Merci.
Et on se retrouve eh bien, dans quelques minutes en compagnie du Père José Miguel Fraga Cardozo, responsable d'Église Esport au Vatican.
Chacun s'élance à vos marques, prêts au départ. Et c'est le moment, c'est à ton tour. N'entends-tu pas tous les bravos?
C'est le grand jour d'aller plus vite, d'être plus fort. C'est aujourd'hui, c'est le grand jour d'aller au bout de tes efforts.
C'est important de bien jouer, mais pas pour soi. Dans une équipe, c'est important. Sois solitaire et très adroit.
À vos marques, Marie-Louise Valentin et Georges Goudet, l'équipe de RCF en Auvergne en direct du 4e congrès national de la pastorale du sport qui se tient jusqu'à dimanche à Pignolet sur la commune d'Orcine. Et j'ai le plaisir d'avoir maintenant à mes côtés le père José Miguel Fraga Cardozo. Bonjour père.
Bonjour.
Je salue également Nathalie Concalves, responsable du service diocésain de la communication qui est à la traduction. En quoi c'est important justement, Père Cardozo, pour vous et pour le Vatican d'être présent à ce congrès?
Neste momento, nós estamos no Vaticano numa nova fase, que é tentar desenvolver uma rede mundial de agentes e capelães do desporto.
Uma rede mundial do esporte, da Igreja e do esporte.
Por isso é importante vir aqui aprender convosco.
É importante vir aqui e aprender a vos côtés.
Recolher as vossas reflexões, as vossas experiências. Para aos poucos começar a criar este pensamento universal da Igreja, mais estruturado, fundamentado.
Cette pensée universelle
sobre a relação da Igreja com o desporto.
Sur la relation entre l'Église le sport.
Et justement, quel message vous êtes venu délivrer? Quelle nouvelle du Vatican vous êtes venu apporter ici même à Pignolet?
Synthétiquement, nous queremos propor uma
nous
nova
proposer une nouvelle étape dans l'histoire du sport.
Quand olhamos a história do desporto, podemos enumerar oito grandes fases.
Nous avons huit grandes formes dans l'histoire du sport.
Uma nova fase, que é
là,
chamada fase pós-moderna.
Nous voulons initier la phase post-moderne dans l'histoire du sport.
Nos seus 2000 anos, podemos dizer
durant 2000 ans
que em 2000 anos a Igreja viu o desporto como algo ao serviço da fé.
L'Église a vu le sport comme quelque chose au service de la foi.
E hoje queremos fazer o inverso, colocar a fé.
Mais aujourd'hui nous voulons faire l'inverse. En mettant la foi au service du sport.
Demonstrando que uma mensagem do Evangelho, sobretudo a figura de Jesus.
Nous voulons montrer la figure de Jésus.
Pode enriquecer o desporto no seu
sentido. Ça peut enrichir le sport dans son sentiment politique,
éthique,
écologique, spirituel et pédagogique.
Et alors expliquez à nos éditeurs, c'est le pape Jean-Paul II qui est à l'initiative de cette section Église et sport.
Sim, realmente no século XX, no início do século XX, quando o desporto começa a ser popularizado, também começa a haver os primeiros pronunciamentos dos papas sobre o desporto.
Quand il y a eu les premières paroles du pape sur le sport.
O Papa João Paulo II, que em 1989,
c'est le pape Jean-Paul II, en 1989,
pela Conferência Episcopal Italiana a pensar o desporto.
Pendant le congrès organisé par la conférence épiscopale.
A necessidade da Igreja ter uma pastoral do desporto.
Qui a dit qu'il était indispensable d'avoir une pastorale du sport.
Em 2004, o Papa criou mesmo esta secção no dicastério.
En 2004, le pape a créé cette section. Un dicaster
entre a Igreja e o desporto.
Pour réfléchir aux relations entre l'Église et le sport.
E um outro momento foi sobretudo no jubileu do ano 2000.
Et pour le jubilé de l'an 2000.
Quand le pape Jean-Paul II, tomando consciência da força cultural do desporto,
pape Jean-Paul II a pris conscience de cette importance,
no estádio olímpico, foi uma ocasião de proporcionar ainda mais esta urgência.
L'occasion de proporcionner encore plus l'urgence de voir le sport comme une nouvelle mission pour l'Église.
Et alors pour vous, père, quelles sont les similitudes entre justement le sport et l'Église?
Há muitas semelhanças.
Il y a beaucoup de similitudes.
Gostaria apenas falar da questão da espiritualidade.
Mais j'aimerais juste parler de la question de la spiritualité.
Santo comme un campeão.
Un saint comme un champion.
Ninguém nasce santo e ninguém nasce campeão.
Personne ne naît saint et personne ne naît champion.
Campeão é um trabalho de uma vida inteira, é um treinamento.
Devenir champion est un travail d'une vie entière.
E a vida espiritual é mesmo assim.
Et la vie spirituelle est aussi comme ça.
A santidade não é a meta, mas é o caminho.
La sainteté n'est pas un moyen, c'est un chemin.
É interessante que por detrás da espiritualidade do desporto,
derrière la spiritualité du sport, il y a deux raisons philosophiques. Pardon.
Primeiro, o desejo de perfeição.
Premièrement, le désir de perfection.
Isto é, nós treinamos para alcançar o máximo da nossa corporeidade.
Nous nous entraînons pour aller au plus loin de nos possibilités.
Lugar, a questão da morte.
Et on aboutit aussi à la question de la mort.
Nous
faisons du sport parce que nous ne voulons pas mourir. Le sport nous donne de la santé. Ce sont deux principes de base qui peuvent ouvrir au phénomène transcendantal.
Et au regard de vos fonctions, vous êtes amené à vous déplacer régulièrement, à rencontrer par exemple des organisations internationales du sport, des instances sportives.
Sim, neste momento estamos a tentar organizar.
Oui, nous sommes actuellement en train d'essayer d'organiser des congrès mondiaux.
Eu só comecei este trabalho em abril.
J'ai commencé ce travail là au mois d'avril.
Dois colegas fizeram trabalho fenomenal.
J'avais l'année passée deux collègues qui ont fait un travail exceptionnel. Pour créer des ponts entre l'Église et les grands organismes sportifs mondiaux, comme par exemple le Comité Olympique International, la Fondation Coubertin et d'autres organismes.
Et aujourd'hui, ce que pretendemos é sobretudo criar, ajudar estes organismos a ter uma visão mais.
Et aujourd'hui, nous voudrions aider ces organismes à avoir une vision plus humaniste.
No ano passado, em 2022, criamos um congresso mundial.
En 2022, nous avons créé un congrès mondial et nous avons fait la Déclaration universelle du sport.
Onde convidamos as inúmeras federações esportivas.
Et nous avons invité de nombreuses fédérations sportives à signer cette déclaration.
Alors vous êtes prêtre sur le diocèse de Braga au Portugal. Au sein de votre diocèse, est-ce que vous avez pu monter certains projets, certaines actions justement autour d'église et sport?
Podemos dizer, em Portugal, este dinamismo
o Portugal,
do desporto ainda não está muito
cette dynamique de la pastorale du sport n'est pas encore très développée.
Ao contrário de França, que está um projeto.
Contrairement à la France, qui a déjà un projet bien établi.
Com já equipas de capelães.
Avec des équipes, des aumôneries, des aumôniers.
Os congressos.
Des congrès.
J'aime beaucoup de voir la question de la préparation de l'Église en relation aux Jeux Olympiques.
J'aime beaucoup voir la préparation de l'Église en relation avec les Jeux Olympiques.
Ou seja, se em todo o mundo temos apenas eventos esporádicos da pastoral do desporto.
Nous avons tous des événements sporadiques de la pastorale du sport.
Uma coisa bem estruturada.
En France, il y a déjà une structure bien élaborée.
E é isso que nós queremos implementar em todo o mundo, tendo em conta o exemplo
français. C'est ce que nous voulons montrer à tout le monde.
Pour terminer, une question plus personnelle. Vous étiez déjà venu en Auvergne?
Non, c'est la première fois.
Non, c'est la première fois.
Mais eu gostei muito e surtout por causa disso. O desporto também tem esse sentido ecológico.
Et notamment parce que le sport a cette notion écologique et la relation avec la nature.
São Francisco de Assis.
Et contempler, comme disait Saint François d'Assise,
o Criador.
Quand la nature contemple le Créateur.
Eh bien, un grand merci, Père José Miguel Fraga Cardoso. Vous avez rappelé que vous êtes responsable d'Église et Sport au Vatican. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un très bon congrès.
Merci.
Il est 11h passé de 19 minutes. Vous êtes bien à l'écoute des programmes de RCF en Auvergne. On écoute Gauvin Serre avec ce titre, Ta place dans ce monde.
Ce soir, c'est l'automne dans ta tête et t'iras pas faire la fête sur la piste. Le mot d'excuses inventées, tu restes seul à écouter des chansons tristes.
pour chasser ta mélancolie. Y'a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde. Toi tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Tu dis qu'on vit une drôle d'époque et combien prennent des médocs pour s'endormir. Tu sais qu'ailleurs il pleut des bombes, qu'il en faudra des colombes pour s'en sortir. Toujours allongé dans ton plume, tu presses le bouton du volume pour que les émotions t'inondent. Et tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Tu rêves d'un grand amour à vivre, pourquoi pas écrire un livre et voyager. Jamais faire partie du troupeau et puis planter le drapeau de la liberté. Entre tous ceux qui réussissent et sur les réseaux le brandissent, tu doutes de toi chaque seconde. Mais tu as ta place dans ce monde.
Ta place dans ce monde, Gauvincer, sur RCF en Auvergne. Le congrès national de la pastorale du sport se tient tout au long de cette fin de semaine sur le département du Puy-de-Dôme et jusqu'à 12h30, nous faisons découvrir différentes facettes de ce congrès. Je suis maintenant en compagnie du père Grégoire Cata. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du service national famille et société de la CEF, conférence des évêques de France. Alors parlez-nous de ce service et surtout du lien avec le groupe Église et Sport. Quels sont les parallèles?
Oui, mais c'est que, bon, vous savez que à la conférence des évêques, il y a un certain nombre de services nationaux. Grosso modo, on peut dire, ce sont des lieux qui soutiennent, voilà, où les évêques se sont mis ensemble pour soutenir, avoir une entité qui soutienne ce qui se fait très concrètement dans les diocèses. Et donc, moi, dans mon service, s'appelle Famille et Société, bon, ça regroupe un certain nombre de domaines, tous un peu plutôt du côté du dialogue avec la société, sur la pastorale des familles, mais aussi la pastorale de la santé, la pastorale des personnes handicapées, les aumôneries de prison, et puis il y a tout un secteur, la pastorale du tourisme, l'écologie intégrale, les relations avec les élus. Donc vous voyez, c'est très très vaste dans mon service, mais on a cette sensibilité, voilà, du dialogue avec la société, et notamment on a cette dimension qui est déjà présente depuis longtemps dans le service, de la pastorale du tourisme et des loisirs, et c'est peut-être là que se fait le rapprochement avec Église et Sport. C'est sans doute ça qui a fait qu'à un moment, il y a quelques années, en 2020, après un passage au dicastère, dans un dicastère romain, on nous a interpellé, mais qu'est-ce que vous faites voilà, autour du sport? Et on a eu l'idée, Monseigneur Feyel, président du Conseil Famille et Société, a demandé qu'on réunisse un petit peu différents acteurs dans l'Église, tous ceux qui parlent de sport. Et c'est comme ça qu'on a fait la connaissance du père Girard, qui lui était déjà bien impliqué dans son diocèse et qui avait une vraie mission du côté pastoral du sport. Et ça a débouché, alors il y avait des gens de Luxelles, de la FSC, la Fédération Sportive et Culturelle de France, mais aussi de certaines communautés nouvelles qui font des choses, enfin, vraiment des gens très divers, et ils ont travaillé un peu ensemble et ont produit un document épiscopat, c'est la revue des évêques de France, pour mettre ensemble, voilà, ils ont appelé ça Église et Sport, un terrain de rencontre, et du coup, depuis ce temps-là, on essaye très, très, très modestement, la grosse activité de ce qui se fait, je dirais, dans la pastorale du sport, c'est concrètement un diocèse comme le diocèse de Clermont avec le père Pascal Girard, un événement comme Holy Games qui s'est organisé dans les diocèses d'Île-de-France. Nous, au niveau du service national, on met en lien un petit peu tous ces gens-là. Et puis, c'est aussi le lieu où un certain nombre d'évêques sont impliqués, quoi. Peut-être que vous l'avez déjà évoqué, mais je le redis, il y a Monseigneur Emmanuel Gobillard, lui en lien avec le Vatican et puis en lien avec un certain nombre de sportifs de haut niveau. Il est un petit peu le représentant du Vatican aussi pour un certain nombre d'événements sportifs. Monseigneur Marsay à Paris, c'est lui qui a été chargé par ses confrères de suivre davantage tout ce qui se fait pour les événements de l'été 2024. On a Monseigneur Blacard qui, au sein du Conseil Famille et Société, dont dépend mon service, service suit aussi par intérêt personnel, mais aussi du coup voilà cette question Église et Sport. Voilà, d'une certaine manière, cette question qui est, on voit bien qu'il y a un grand enjeu, et puis en fait plein de belles choses qui se font, de la rencontre de la foi et du sport, et ben au niveau de l'organisation des institutions de l'Église de France, modestement, on est présent.
Alors vous lisiez, Père Cata, c'est quelque chose de tout récent, parce que le groupe de travail s'est créé en 2020, document épiscopal, je crois, en 2021.
Oui, paru en 2022, oui.
Et vous parliez de Monseigneur, justement, Blacard, évêque d'Orléans et accompagnateur d'Église et Sport France. Et j'ai envie de citer cette phrase qu'il a prononcée. « Le sport pratiqué de manière juste est une bonne école d'accomplissement de soi, un exercice spirituel. » On a de la peine quelquefois à savoir ce qu'il a voulu dire derrière ces deux mots, exercice spirituel.
Ben, je pense, hein, on en a beaucoup parlé dans différentes interventions dans ce congrès des sports. Si on regarde la dimension d'exercice spirituel, la foi, et puis d'exercice de ce qu'on fait dans le sport, ben, il y a beaucoup de rapprochements. Hein. C'est vrai que dans le sport, ben, on s'entraîne, on a un objectif, on est obligé de le faire en équipe et avec d'autres. Dans la vie spirituelle, ma manière de suivre le Christ, il faut que j'entretienne, quoi. Il faut que je développe une certaine manière de prier, de me rapporter à Dieu. Ben, ça se fait par des exercices quotidiens. Je le fais pas, à certains moments, j'ai besoin de le faire aussi avec d'autres. La dimension d'équipe et puis ce que crée dans le sport. J'étais très impressionné de témoignages de sportifs de haut niveau qui faisaient le rapprochement entre la communion qu'ils vivent dans le sport, c'était une athlète, voilà, peut-être qu'elle en reparlera quand vous l'interviewez, mais la communion, et puis on parle bien de communion, nous pour les chrétiens, la communion c'est quand même un élément central de notre célébration de l'Eucharistie. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de points de rencontre, et d'une certaine manière l'expérience sportive peut tout à fait venir nourrir notre expérience spirituelle, et à l'inverse l'expérience spirituelle vient aussi donner du sens peut-être à une pratique sportive.
Alors vous l'évoquiez précédemment, et ça n'échappait à personne, l'année 2024 sera l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. L'Église de France a déjà réfléchi à des propositions d'ordre spirituel, a déjà réfléchi à comment l'Église de France peut s'insérer justement dans cet événement.
Alors oui, je pense que vous allez y revenir avec des gens encore plus compétents que moi qui sont investis directement, mais c'est ce gros projet qui s'appelle Holy Games, voulu d'abord par les évêques d'Île-de-France, parce que c'est là où va se passer le plus d'événements sportifs, mais en fait ça a été repris après par les autres évêques, parce qu'en fait cette question des JO nous concerne toute la France, hein. La flamme olympique va passer par plus de 75 départements, on sait qu'il y a des épreuves sportives un peu partout, puis il va y avoir des équipes aussi qui vont aller s'entraîner à droite à gauche, donc c'est important d'accompagner ça, accompagner à la fois être présent auprès des athlètes, de ceux qui vont être en compétition pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors ça touche au fait que, d'après le règlement du CIO, doit toujours y avoir un lieu, on va dire, d'aumônerie, un lieu d'accompagnement spirituel pour toutes les religions dans le village des athlètes. Mais il y a aussi toutes des propositions qui vont être faites pour tous les visiteurs, les touristes sportifs. C'est pour ça que chez moi, la question du sport est aussi très liée au tourisme. Des propositions spirituelles à la fois d'ouverture, de visite d'église, de célébration. Puis aussi, il y a une dimension de solidarité qui est importante, parce qu'on sait bien qu'à l'occasion des grands événements sportifs, ceux qui sont plus à la marge, ben, quelquefois, on les repousse encore plus loin. Donc il y a aussi cette attention-là. Et je crois que dans Holy Games, le projet est aussi de rassembler plus de 2000 volontaires jeunes. Un certain nombre de jeunes qui ont été au JMJ l'été dernier pourraient se retrouver pour consacrer une semaine au service, justement pour faire vivre des lieux, pour accueillir les gens, pour témoigner de leur foi, et voilà.
Voilà, et je peux signaler aux auditeurs que dans quelques minutes, enfin 12h24, ouais, Isabelle de Châtelus, responsable d'Holy Games, sera avec nous, sera derrière ce micro. Eh bien, un grand merci, Père Grégoire Cata, d'être venu jusqu'à nous. Puis je vous
merci à vous.
Un bon congrès.
Merci.
Merci. Et on poursuit ce programme sur RCF en Auvergne en chanson avec Camélia Jordana. Je te suis.
De nuit comme de jour, la gorge et les poings se serrent. J'ai le cœur lourd, je ne peux le laisser faire. Mon désir sourd m'empêche de regarder en arrière. Et mes amours maintenant ont un goût amer. J'ai cru savoir m'y prendre. J'ai vu tour et pose un genou à terre. Je ne suis pas pour, j'essaie simplement de me taire. Je regarde autour, mes pensées sont en désert. Tu me joues des tours et je vois tout à l'envers. J'ai cru
Vous êtes bien à l'écoute des programmes de RCF en Auvergne. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 en direct du Pignolet à Orsine, où se tient actuellement le 4e congrès national de la pastorale du sport. Stéphane Marcelot vient de me rejoindre. Bonjour Stéphane.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous allez nous présenter le journal de midi, mais tout d'abord les titres de ce journal.
Et là on reparle d'un accès à l'eau durable pour tous. Le PDG de Danone, maison mère de Volvic, répond aux accusations des associations environnementales alors que de nouvelles restrictions pourraient être annoncées tout à l'heure par la préfecture du Puy-de-Dôme. Réduire les impacts sur l'environnement des commerces de bouche, c'est l'objectif des éco-défis en Haute-Loire. Et puis on vous parlera aussi des 125 ans du groupe Huillerie de La Palisse.
Eh bien, mon cher Stéphane, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour développer l'ensemble de ces titres. Jusqu'à 12h30 sur RCF en Auvergne, nous parlons du 4e congrès national de la pastorale du sport qui se tient bien jusqu'à dimanche à Pignolet sur la commune d'Orsine, je le disais précédemment, dans le Puy-de-Dôme. Je suis maintenant en compagnie de Katie Régent-Talbot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, Kevin Talek Marston. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Katie Régent-Talbot, vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe, mais surtout, j'ai envie de dire, vous êtes aussi une ancienne championne de France du 400 mètres. C'était en 1990 à Liévin, c'est ça? Racontez-nous un petit peu.
Ah, Liévin, ça remonte. C'était au 400 mètres en salle, ça s'était passé. Ben, que vous dire de cela? Ma période sportive de haut niveau, ça a été vraiment un bain de joie, un bain de rencontres. Et je vis aujourd'hui une relecture de ma vie.
En étant
invitée ici en tant qu'athlète de haut niveau, je peux dévoiler comment l'athlétisme m'a emmenée à ce niveau, dans le monde, mais dans le monde sportif, mais aussi dans le monde de la foi. De ma foi. Ce titre, vous êtes en train de faire remonter des émotions, là. Waouh, c'est... Être en Auvergne aujourd'hui, c'est aussi dire merci. J'ai conclu mon diplôme de kinésithérapeute à Vichy.
Ah oui, pas très loin de chez nous, de Clermont-Ferrand.
À Vichy, j'ai fait des stages d'élèves kinés à Clermont. Je me suis occupée bénévolement des équipes de basket à Vichy. Mais là, je suis surprise agréablement. Merci beaucoup. Merci.
Mais quand on arrête justement sa carrière de sportive, il doit quand même y avoir un vide, un manque en soi. Comment on arrive à combler ce manque? Est-ce que justement la foi que vous évoquiez précédemment permet de combler peut-être ce manque, ce vide?
Je ne l'ai pas arrêté, ma carrière. Je ne l'ai pas arrêté parce que, en fait, je suis cette sportive avec sa foi, animée par l'éducation que j'ai reçue dans ma famille, une éducation religieuse bien rodée, on va dire, un père sportif aussi, une mère sportive aussi, consacrée à l'Église. Et j'ai eu du mal à vivre ma foi en équipe de France. J'ai été considérée comme une pestiférée. Elle a son chapelet. Eh ben, je l'ai pas lâché, mon chapelet. Et mon chapelet m'a aidée parce que présélectionnée olympique pour 92, accident de voiture 2 mois avant les Jeux olympiques. Je savais qu'on n'enverrait pas le 4x400, mais ma foi m'a aidée à tenir. J'ai repris mes études à zéro. J'ai tout fait avec ce que le sport m'a apporté. Cette motivation, c'était pas aller chercher plus loin, aller chercher plus haut, mais c'était persévère, encore, recommence, encore. Voilà pourquoi je dis merci. Merci au sport et merci à la foi.
Kevin Talek Marston, alors je ne sais pas si vous êtes un sportif de haut niveau, vous allez nous le dire, mais par contre, ce que je sais, c'est que vous êtes universitaire à Neuchâtel, en Suisse. Vous êtes chercheur en histoire au Centre international d'études du sport. Alors, vous travaillez principalement au niveau de l'histoire et de la gouvernance. Alors, expliquez-nous le lien entre justement sport et histoire, tout d'abord.
Sport et histoire, ben merci déjà de l'accueil. Et puis le lien entre sport et histoire, c'est un lien très proche. Je dirais tous les phénomènes que nous voyons aujourd'hui, les Jeux Olympiques qui viendront très bientôt à Paris, la Coupe du Monde de rugby qui est en train de se terminer, ces événements ne sortent pas de nulle part. Ce sont des événements qui ont une histoire particulière, qui naissent principalement du 19e siècle. Et d'un monde vraiment post-industriel qui est complètement en changement et où on doit réinventer le rapport au corps et l'exercice physique qui devient de nouveau quelque chose de très important pour la société.
Et vous intéressez, je disais également, aux questions de la gouvernance sportive et notamment, je crois, autour principalement du football, c'est ça ?
C'est juste. La question de la gouvernance, je trouve que c'est une question fascinante et passionnante.
Pourquoi fascinante ?
Parce que ça nous renvoie, ça nous renvoie à des questions d'éthique. Et toute l'éthique, elle s'exerce au niveau individuel, personnel. C'est des choix que chacun doit poser tous les jours. Et du coup, la gouvernance n'est que le cumul ou la somme de toutes ces petites décisions éthiques, de ces valeurs qui se construisent partout dans le monde.
Alors Kevin Talek Marston, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre rencontre avec Gilles Lecoq, un des organisateurs de ce congrès national de la pastorale du sport. Alors l'autre jour, j'ai rencontré Gilles Lecoq qui m'a dit que vous étiez rencontré au Vatican.
C'est juste, avec Gilles, nous nous sommes croisés, je pense, 2 fois à Rome, au Vatican, lors de quelques colloques au sujet du sport. La première fois, je crois, c'était en 2015-2016. Et puis, tout récemment, septembre de l'année dernière, il y a eu un grand congrès avec plusieurs centaines de personnes au Vatican autour de la question du sport pour tous. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons co-animé une session francophone pour dégager un peu des réflexions sur la notion du sport pour tous et comment l'Église peut dialoguer dans cet espace.
Et alors, donc voilà, de là, vous avez été invité par Gilles Lecoq. C'est pour cette raison que vous trouvez ici même durant ces 3 jours que vous participez à ce congrès. Mais est-ce que vous faites partie du groupe de travail, justement, Église et Sport?
Alors, j'ai participé il y a 6 mois à un échange, un premier pour moi, en tout cas, un call très intéressant qui m'a permis, en fait, de comprendre un peu mieux ce réseau français. C'est un réseau que je suis à distance par les sites internet et les ressources très nombreuses, je dois dire, du père Pascal et puis de Gilles. Donc je découvre un peu plus proche ce réseau et les personnes.
Mais que l'Église justement s'intéresse au sport, ça interpelle, ça surprend même. Comment analysez-vous vous en tant qu'universitaire cette démarche?
Alors, je dirais que l'Église, je pense, elle s'est toujours intéressée au sport, parce que le sport n'est que l'expression du corps et de l'homme, ou de la femme, parce que je suis à côté d'une championne, donc je dois être inclusive à ce niveau-là. Mais l'Église s'est toujours intéressée au sport, que ça soit des jeux de basket qui se déroulaient au début du XXe siècle sur la place Saint-Pierre, que ça soit les nombreuses interventions et les nombreux discours de Jean-Paul II sur le sport, car lui-même était sportif. Donc le sport, aussi par sa proximité à la jeunesse et sa vocation d'éducation, le sport est un champ très important, il me semble, pour l'Église.
Qu'est-ce, Jean Talbot, je reviens vers vous. Quand on parle d'Église et sport, terrain de rencontre, en tant que sportif de haut niveau, vous êtes d'accord?
C'est plus qu'un terrain de rencontre.
C'est plus qu'un terrain de rencontre.
Oui. C'est une relation qui est ouverte sur le monde. Moi, le sport m'a... C'était pas seulement une éducation, c'était aussi un tremplin vers les autres, une rencontre nouvelle à les nations. J'ai participé aux au Jeux des Cinq Nations. Je me suis sentie dans un devoir de modèle. Effectivement, quand on a le public derrière qui applaudit, vous n'êtes plus Kitty et Jean Talbot, vous êtes la France. Vous représentez un pays. Et toutes les compétitions, j'ai eu la grâce de participer au niveau international, cette pensée-là était première dans mon cœur. Je représente une nation. Et cette nation, je l'ai retrouvée à mon cabinet de kinésithérapeute, ouverte sur le monde. J'allais à la rencontre des différentes religions, de différentes personnes. J'étais rarement avec...
On se nourrit les uns des autres ?
Beaucoup. Énorme. J'ai énormément appris des autres et j'ai beaucoup reçu d'eux. J'ai appris et reçu d'eux.
Mais tout à l'heure, vous nous disiez que quand vous étiez en équipe de France d'athlétisme, vous avez été considéré un peu par rapport à votre foi et votre chapelet comme une pestiférée. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Parce que vous auriez pu peut-être vous consacrer entièrement justement au sport et vous détourner de la foi.
Ben non, c'était un exultoire pour moi. Je suis tombée vraiment dans le bain du haut niveau, un exultoire. Je suis arrivée dans le sport, j'avais déjà fait du sport, j'avais fait de la danse, j'avais des qualités que j'ignorais. Mais moi, ce que je recherchais, c'était des amis. Être entourée d'amis, de la joie. Et je l'ai trouvée. Pas forcément dans notre staff, hein, mais... Dès qu'il y avait une compétition internationale, là, oui, on me parlait d'entraînement, j'étais un peu plus concentrée, les études, je mettais entre parenthèses. Et oui, je vais rencontrer les autres. C'est la rencontre avec l'autre.
La rencontre avec l'autre. Alors, je reviens vers vous, Kevin Dyke-Marston. Vous allez intervenir lors de ce congrès. Votre intervention va porter sur la topographie, notamment du sport international. Quels vont être les grands axes de votre intervention, sans tout dévoiler, bien sûr?
Bien
Pourquoi
sûr.
Pourquoi avez-vous choisi justement cet axe?
Alors, en réfléchissant avec Gilles et le père Pascal de ma contribution modeste à ce congrès, je me suis demandé si ce serait intéressant d'amener peut-être une vision extérieure, un peu plus internationale à ce réseau qui est très français. Et donc, je me suis posé trois axes de réflexion, l'organisation politique du sport au niveau international, la particulière économie du sport, et puis en troisième lieu, vraiment le sport comme planète sociale, que j'appellerais la planète sociale. Donc c'est un peu les trois axes de réflexion, et pour chaque domaine, je vais essayer de dégager quelques pistes de réflexion, de défis. Au niveau défis, peut-être pour l'accompagnement, peut-être des défis plutôt d'ordre spirituel ou à ce niveau-là.
Et alors, est-ce que vous parlez au niveau international, mais est-ce qu'au niveau européen, mais aussi international, les cultures sportives sont amenées à se transformer, à évoluer? Est-ce que ça fait partie également de vos axes de recherche?
Alors là, évidemment, en tant qu'historien, je m'intéresse premièrement au passé, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à étudier, parce que tout est connu, ou presque. Le sport, en revanche, aujourd'hui, est en mouvement. Et j'ai la chance d'enseigner dans différents cours de master avec des jeunes qui sont des futurs dirigeants du sport. Et ça me montre à quel point le phénomène du sport tel qu'il existait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il est en flux total. Et je suis étonné de voir les tendances vers lesquelles finalement le sport va partir, que ça soit des questions de technologie, que ça soit la globalisation, que ça soit le développement phénoménal du sport féminin. Le sport est en train de changer, absolument.
Katia et Jean Talbot, je reviens vers vous par rapport à ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que vous êtes amené à témoigner justement de votre carrière de sportive, aussi de votre foi en dehors de ce congrès? Est-ce qu'on a eu le temps d'entendre, a fait appel à vous?
J'ai eu la grâce d'être sur un terrain de forum religieux à Paris-Lomonial et Père Christian, auquel je dis un grand merci, est venu vers moi et dit « Tu veux pas témoigner ?» Témoigner de quoi ?« Oui, je veux, mais un public d'enfants. » Oui, et j'ai eu ce public d'enfants. Je me revois leur dire « Le sport, c'est un tremplin sur la vie, mais c'est aussi un grand champ d'éducation. C'est le respect, c'est le jeu. » Et pendant 20 minutes, j'ai parlé à ces enfants-là de mon vécu sportif. Et j'ai fait comme quand j'étais sportif. Je distribuais mes médailles à des enfants. Je donnais des autographes à des enfants.
Quelles ont été justement leurs réactions de ces enfants?
Ils sont tous venus. Ah ben oui, mais alors RTK, ça veut dire quoi? Ben, je dis justement, RTK, si tu trouves ce que c'est, t'as une médaille. Et j'ai distribué j'ai toujours des médailles de la médaille miraculeuse sur moi. Et j'ai distribué des médailles à ces petites filles, à ces petits garçons, en leur demandant simplement... Sois heureux quand tu fais du sport. Sois heureux dans la vie. Et je me suis surprise moi-même. Je me suis dit, tiens, j'avais autant de médailles. Et c'était juste le nombre de médailles. Donc, jusqu'à ce jour, j'ai rencontré le Père Pascal au cours d'un sacrement des malades.
Oui.
Qu'est-ce que ça venait faire là? Je dis, bah oui, ben, tout le monde est malade. Hein. Donc, moi aussi, je suis malade. Et ce corps... où je le désincarnais à ce moment-là. Je refusais de me dire « Ah, j'ai eu un accident, j'ai eu ci, je ne peux plus », était habité par ma foi. Mais cette foi, elle n'a pas été nourrie par moi, elle a été nourrie par les anciens, par l'histoire, par les gens que j'ai rencontrés, par feu Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. À des moments, je me suis retrouvée projetée à des lieux, mais toujours des lieux de prière. Et alors, je me suis dit « Bah, tiens. » Je ne peux témoigner que de ce que j'ai vécu. Le sport m'a transformé.
Alors justement, le temps passe vite. J'aimerais évoquer un petit peu avec vous les Jeux Olympiques de 2024 ou les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Pour vous, c'est vraiment une belle opportunité que l'Église doit saisir.
Oui, il était temps, j'ai envie de le dire. Il était temps. Qu'on comprenne que ce n'est pas un corps... qui est en mouvement, sans ce mouvement invisible, ce mouvement interne. Il n'y a pas un sportif de haut niveau que j'ai pu rencontrer qui n'avait pas cette attitude d'humilité en soi. Que ce soit dans la défaite, que ce soit dans la victoire. Moi, je l'ai vécu très souvent dans la défaite, très peu dans la victoire individuelle, mais quand je l'ai vécu en victoire collective, ben, il y avait une émulsion, il y avait une joie, en plus on se tapait. Oui, c'était un peu provoque. On allait voir les autres. Et cet engouement, cette joie, le vivre actuellement à Paris, je pense que ça peut aider la jeunesse. Je pense que ça peut ouvrir vers l'Église aussi. Se dire qu'il y a une discipline, il y a une urgence d'écoute, il y a des soins qu'on peut apporter. Et là, si je n'avais pas été sportif au petit, moyen niveau, qu'importe, je n'aurais pas pu avoir cette rigueur dans mon travail de thérapeute. Et cette connaissance du corps, Je pense qu'il m'aurait manqué ce petit plus, le vécu, la souffrance, la joie, l'exultation, comprendre l'autre, savoir aussi dire stop, on recommence.
Kevin Talek-Marston, c'est un beau témoignage quand même que nous fait.
C'est magnifique.
Kitty. Alors, j'aimerais évoquer aussi quelque chose avec vous, c'est le e-sport. Parce que c'est vraiment quelque chose qui émerge. Beaucoup de jeunes sont intéressés justement par ces jeux vidéo consacrés au sport. Est-ce que c'est quelque chose justement qui est évoqué dans le cadre des groupes de travail Église et Sport? Est-ce que l'Église doit se saisir justement de ce phénomène pour vous?
Alors, hier soir, nous avons eu une intervention absolument spectaculaire, je peux dire, d'un prêtre qui est gamer, qui est très participatif aux jeux vidéo, mais aussi au e-sport. Et il fait des compétitions, il fait des rencontres et il exerce une partie de sa pastorale dans ce domaine-là. Et c'est vraiment fascinant. Je ne savais pas, j'ignorais totalement que le e-sport pouvait être également un lieu d'action pastorale. C'était nouveau pour moi. Mais c'était très intéressant parce que visiblement, c'est un champ qui intéresse énormément de jeunes. On en parle énormément dans les cours que je donne à l'université parce que c'est une industrie énorme qui monte partout. Le CIO a annoncé il y a très, très récemment qu'ils vont réfléchir à des Jeux Olympiques e-sport. Donc, l'avenir clairement inclut ce domaine de ce qu'on peut appeler le virtuel, mais le e-sport, et donc c'est quelque chose qui doit aussi intéresser l'Église.
Eh bien, Kitty Régent-Talbot et Kevin Talek-Marston, un grand merci d'être venus jusqu'à nous, et on a bien compris en écoutant vos propos qu'on ne peut opposer le corps à l'esprit. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Très bon congrès.
Bonne journée.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Merci. Il est 11h55, vous êtes bien, 11h51, pardon, vous êtes bien à l'écoute des programmes de RCF en Auvergne. Et on écoute La Grande Sophie avec ce titre, La Mer. Très loin de la commune d'Orcy, nous se tient ce 4e congrès national de la pastorale du sport. Se trouve le parc à thème Vulcania, un parc que vous nous invitez à découvrir tout au long de cette semaine, Stéphane Marcelot. Et intéressons-nous aujourd'hui à l'une des dernières nouveautés. Difficile effectivement de passer à côté de l'immense planétarium qui propose un voyage immersif au cœur du système solaire. Pour nous présenter ce planétarium, vous êtes Stéphane, aux côtés de Frédéric Goulet, directeur marketing de Vulcania.
Donc le voilà, ce planétarium inauguré tout récemment, c'était au printemps 2023.
C'est un dôme de 22 mètres de diamètre. On a plus de 306 places à l'intérieur.
On y est.
Un système de projection qui est l'un des meilleurs au monde. On a cette chance-là aussi. Et puis on parlait tout à l'heure des PMR. Et ben on a 8 places PMR qui se permettent à tout le monde de profiter du spectacle.
Juste sur la gauche, là, un espace bibliothèque avec des revues scientifiques.
L'idée, c'est effectivement que les personnes qui cherchent à en savoir plus puissent le faire. Donc on a des animations qui sont plus ou moins pédagogiques. Hein. On a toujours une base de pédagogie, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et notamment, le centre Laniakea, qui est un centre multimédia, permet justement de se documenter sur ce qu'on a pu voir. Pour les personnes qui ont un pass également, qui habitent dans la région, elles peuvent emprunter des livres et venir les retourner. Donc c'est vraiment un système de médiathèque, on va dire. Et puis également, on parlait justement du côté document et recherche, il y a pas mal, par exemple, de professeurs des écoles qui vont venir ici, qui vont se documenter avant de faire une sortie scolaire avec leurs élèves, qui vont avoir un maximum d'informations, et puis après, qui vont pouvoir profiter au maximum de la sortie scolaire avec les enfants, quoi. Et dans ce hall cathédrale, donc on a effectivement le centre multimédia. On a accès à 4 salles pour les ateliers avec les scientifiques. Et puis après, on aura accès au préchaud, puis au dôme, pour lequel on peut découvrir 4 activités. Le film Vaste, qui est un voyage jusqu'au fin fond de l'univers. Le film Noisette, c'est un dessin animé pour les enfants, qui permet vraiment de découvrir aussi les planètes du système solaire, mais sous forme de dessin animé. Et avec une belle finalité, une belle morale, qui est que des noisettes, il y en a sur Terre, il y en a nulle part ailleurs. Donc en fait, il faut prendre soin des noisettes qu'on a sur Terre, c'est très très important. Et puis, on parlait justement de l'importance des animateurs scientifiques qu'on peut avoir à Vulcania, et dont on a cette chance. Et là, effectivement, on a 2 programmes, l'aventure volcano-sidérale et Ce soir dans le ciel, qui ont été créés par les équipes de Vulcania, et qui permettent justement de découvrir, en fait, dans l'aventure volcano-sidérale, les volcans extraterrestres. Donc on va faire un voyage sur différentes planètes. Et Ce soir dans le ciel, la lecture du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça change à chaque mois, vu que le ciel change, et ben l'animation va changer. À l'aide d'illustrations, on va réussir à bien avoir cette carte qui est au-dessus de nos yeux tous les soirs, de mieux la comprendre et mieux savoir la lire. Et là, maintenant, je vais vous montrer le dôme.
Alors, c'est l'occasion de parler déjà d'une manière technique, comment il a été constitué.
Donc l'idée, effectivement, pour nous, c'était déjà d'avoir un outil pédagogique pour pouvoir exprimer aux personnes, justement, un petit peu les intéresser aux volcans extraterrestres, un petit peu la place de la Terre dans l'espace, donc vraiment l'un de nos 3 univers, les volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l'espace. Et on a cherché le meilleur outil pour ça. Donc la genèse est partie de ça. Comment est-ce qu'on peut intéresser les personnes de façon ludique et immersive à des choses qui ne sont pas forcément palpables et faciles à cerner.
Donc pour ça, il fallait presque coucher les gens.
Alors pour ça, il fallait les mettre en immersion complète, et on s'est dit que le planétarium, c'était quand même le meilleur outil qui pouvait exister. Là-dessus, donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé avec Eiffage, notamment, mais aussi avec RSA Cosmos, qui est l'entreprise de la région, qui est l'un des leaders mondiaux au niveau des planétariums. Et en fait, on a cherché les compétences, les meilleures compétences au monde à chaque fois pour travailler sur ce planétarium.
Vous êtes allé voir dans d'autres parcs d'attractions?
Complètement, ouais. Ça s'est fait au niveau d'autres parcs d'attractions, ou même aussi au niveau des planétariums purs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé aussi avec des planétariums qui font que planétarium. On a aussi on a contacté vraiment un grand nombre de personnes. On a quelqu'un du comité scientifique qui nous a rejoint, qui est le président d'Universcience, donc quelqu'un qui est passionné, qui est également prof à Cambridge, donc quelqu'un qui est absolument passionnant et passionné par l'espace. Et après, on a créé cet outil qui est le planétarium. Et ce planétarium, donc forcément, on a voulu quelque chose qui rende vraiment la grandeur de l'espace et notre côté très petit à nous. Les films, on parlait de la qualité de projection. On a une telle qualité de noir que lorsque vous avez une projection qui se fait pourtant en 2D, vous avez réellement une impression de 3D. Et vous avez par exemple Mars qui arrive, à un moment on arrive sur Mars, et le fond, c'est le noir spatial, et ben vous avez l'impression que cette planète va se détacher et arriver sur vous, alors qu'on est vraiment sur une projection pour le coup en 2D. Mais c'est vrai que c'est
là,
très
c'est
très
pour tout public.
Tout est tout public. Après, c'est vrai que le film Noisette est plutôt pour les enfants. Mes enfants peuvent tout à fait voir l'aventure volcano-sidérale, c'est un beau spectacle. Ce soir dans le ciel, ils aiment beaucoup. On fait des dessins, enfin, c'est des dessins qui s'affichent au niveau des étoiles, donc ça marche très bien aussi. Vaste, c'est impressionnant pour tout le monde, et effectivement Noisette est vraiment spécifiquement pour les enfants, quoi.
Mais en tout cas, c'est dans cette nouveauté, grande nouveauté du parc Vulcania, qu'on va clôturer avec vous cette visite. Et merci Frédéric Goulet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Puis donc Vulcania, on le rappelle, est ouvert une très grande partie de l'année maintenant, jusqu'après les vacances de Toussaint, pour poursuivre en tout cas cette expérience.
Eh bien, merci à tous, on vous attend avec impatience, et c'est vrai que on est particulièrement heureux de partager tout ce qu'on peut faire ici, notamment le planétarium, le Namazu, les spectacles, donc il y en a vraiment pour tout le monde, et donc on vous donne rendez-vous bientôt à Vulcania.
Voilà, effectivement, pourquoi ne pas profiter de ces vacances de la Toussaint pour programmer une petite visite à Vulcania qui est ouvert jusqu'au 5 novembre. Vous êtes bien allé coup des programmes de RCF en Auvergne. Regardons ce que nous réserve et ce que vous réserve ces prochaines minutes. À midi, rendez-vous d'actualité avec le journal qui sera suivi de l'invité de la rédaction. À 12h12, Destin Olympique, une rencontre avec Robert Haït-Braham, ancien lutteur de haut niveau, qui a été ensuite arbitre dans cette discipline. Il évoquera son parcours donc dans une douzaine de minutes. Et à 12h25, toujours au registre sportif, c'est Isabelle de Châtelut, responsable d'Holy Games, qui sera avec nous. Holy Games, une proposition catholique en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous êtes à l'écoute des programmes de RCF en Auvergne, il est midi. Et Stéphane Marcelot, vous nous présentez le journal.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la une de votre journal de la mi-journée, trop peu d'eau sur l'Auvergne, la pression qui monte sur les grandes industries consommatrices. Le grand patron du groupe Danone était hier à Volvic, il répond aux critiques. Réduire les impacts sur l'environnement des commerces de bouche, c'est l'objectif des éco-défis en Haute-Loire. Elles sont sûrement tout près de vos casseroles en ce moment. En cuisine, les bouteilles d'huile de la Palisse, le groupe célèbre ses 125 ans. Et puis vos prévisions météo, c'est maussade cet après-midi, maximale autour de 20 degrés en Auvergne.
RCF Auvergne, le journal. Stéphane Marcelot.
Elles feront du bien à beaucoup de monde, notamment au sein de la communauté éducative, très marquée par les événements des derniers jours. Début des vacances scolaires ce soir pour les établissements. C'est parti pour 2 semaines de coupure. Retour en cours à partir du lundi 6 novembre. Pas de problème côté trafic en Auvergne si vous prenez le volant dès ce soir. Bison futé, voie verte tout ce week-end en province. Les fausses alertes à la bombe qui se sont multipliées ces derniers jours ont donné lieu à l'ouverture de 22 enquêtes, annonce ce matin du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Petite accalmie pour les prix à la pompe, petit effet de la mobilisation des enseignes de la grande distribution par le gouvernement. Néanmoins, les baisses diffèrent fortement d'un carburant à l'autre. C'est pour le gasoil que la baisse est la moins marquée. Un litre revient en moyenne à 1,911 euros, c'est 3 centimes de moins par rapport à la mi-septembre. L'essence connaît une baisse plus marquée. Autre baisse marquée, une moins bonne nouvelle pour le coup, celle des nappes phréatiques. Les faibles averses de ces derniers jours ne changent pas grand-chose au constat alarmant. Actuellement, un comité départemental de l'eau se tient en préfecture du Puy-de-Dôme où de nouvelles mesures de restriction devraient être annoncées. La pression se fait encore plus grande sur les industriels. Hasard du calendrier, le grand patron de Danone, François Hérault, était hier en visite sur le site de l'usine Volvic. Il répond aux contestations. La société des eaux de Volvic accusée de prélever encore beaucoup trop d'eau en profondeur par rapport aux enjeux actuels.
Ce que je dis, c'est on travaille à prélever. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ce qu'il y a de plus précieux pour nous, c'est la ressource. Demain, il n'y a plus de ressources, une entreprise n'a plus de génération de bénéfices économiques. Donc notre enjeu, c'est de protéger cette ressource et de capter simplement ce que la nature peut nous offrir. Donc ensuite, c'est dans la bonne gestion avec l'ensemble des intervenants du territoire qu'il faut qu'on travaille pour que chacun ait la quantité dont il a besoin.
Réunion publique ce soir à Vic-le-Comte sur la possible mine de lithium. La question n'est pas encore tranchée, mais l'entreprise Sudmine, à l'origine du projet, sera représentée. Le projet toucherait aussi les communes de Parent et Coude. La réunion qui se tient à la salle Molière à 19h30. Soupçonné de faire bénéficier des proches d'emplois fictifs, Laurent Wauquiez contre-attaque. Hier, en marge de la session plénière à Lyon, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes a qualifié d'information mensongère les révélations de nos confrères de Radio France. Il a indiqué vouloir un droit de réponse. Dans son opposition, on attend des éclairages. Le groupe socialiste a indiqué par communiqué se réserver le droit de saisir la justice si les infos étaient confirmées. Par ailleurs, le conseil régional a validé la volonté de Laurent Wauquiez de participer à l'expérimentation de l'uniforme. 5 lycées, 3 publics et 2 privés seront proposés au ministère de l'Éducation nationale. La ville de Rion s'oriente vers la mise en place d'un crématorium en périphérie de la commune. Jusqu'à présent, les habitants du bassin riomois n'ont guère d'autre choix que de se diriger vers Clermont ou Vichy pour bénéficier d'un service de crémation. Ouverture prévue fin 2025. Les éco-défis, c'est une nouveauté lancée par la Chambre de métiers et de l'artisanat en collaboration avec la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. 44 défis à mettre en place pour réduire les impacts sur l'environnement des commerces de bouche. Le dispositif vient de récompenser son premier lauréat, Martin Obadia.
Le premier lauréat, Julien Janisset, il tient les comptoirs du Velay au Pertuis. Dans le cadre des éco-défis, il a mis en place plusieurs initiatives.
On incite déjà depuis quelques temps nos clients à porter leurs propres contenants pour emballer leurs achats. Sur la partie plus activité de gros, on réutilise nos cartons d'emballage. On a vraiment une démarche globale sur cet aspect-là.
6 thématiques, 44 éco-défis sont proposés. Le but, inciter les commerces de bouche à passer au vert. Ces derniers sont contraints de par leur activité. Elles nécessitent de grosses quantités d'eau et sont très consommatrices d'électricité avec les frigos. Julien Janisset encourage ses confrères à faire de même.
C'est un dispositif très accessible pour tout le monde et sincèrement, le dossier administratif est très simple à remplir et tous les 40 éco-défis quelques points qu'on peut mettre en place ne sont pas du tout compliqués, non.
Une fois les défis faits, les commerçants remplissent un dossier. Des points sont alors attribués en fonction des éco-défis réalisés. Ils donnent droit à un coup de pouce financier de l'agglomération du Puy-en-Velay. Corinne Bringer est la vice-présidente en charge du commerce de proximité.
À partir de 4 étoiles, c'est le label bronze, où là, la communauté d'agglomération apporte une aide de 250 euros. Si le défi est qualifié de label argent, c'est-à-dire 7 étoiles, là, la communauté d'agglomération apporte une aide de 600 euros. Et la catégorie or, c'est 10 étoiles, et là, c'est une aide financière de 1000 euros.
Les subventions permettent de donner un coup de pouce pour les investissements futurs des commerces.
Le partenariat signé est prévu pour 2 ans. La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay compte 332 entreprises artisanales alimentaires éligibles aux éco-défis. On s'oriente de plus en plus vers des transports clermontois gratuits le week-end jusqu'en 2027. Le comité syndical du SMTC a voté pour hier. Reste désormais le vote de la ville de Clermont puis de la métropole pour confirmer pleinement cette mesure. Elle avait été mise en place en 2021. 125 ans et plus en forme que jamais. Mais le groupe Huilerie de la Palisse a célébré hier soir l'anniversaire de sa première marque d'huile, Abel, créée par Abel Paillard en 1898. Plusieurs générations plus tard, eh bien, l'entreprise continue de prospérer. Et Philippe Chervillier, le président de l'Huilerie de la Palisse, nous donne les secrets de cette réussite.
La vie d'une PME n'est pas forcément un fleuve tranquille, donc il faut s'adapter, investir, embaucher investissement matériel, mais surtout humain, pour être bien épaulé et bien secondé. 50 personnes qui m'entoure, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 27% à l'export et 6 hectares de terrain et 12 000 mètres carrés de bâtiments. On veut encore développer notre marque Abel 1898 en référence à mon arrière-grand-père. Ça, c'est très important parce que ça me permet de diluer toute cette histoire. On a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a quand même 4 générations derrière. On a une équipe qui est brillante et qui est motivée. Donc on a plein de choses. On a des beaux investissements. C'est pour ça qu'on est à 125 ans, mais aussi l'inauguration de bâtiments et de matériel. Donc oui, on a encore plein de choses à faire.
Au micro RCF de Vincent Humbert. Et puis Laurent, je sais que ça vous fait encore un peu mal. L'équipe de France est éliminée, mais la Coupe du Monde, elle, se poursuit bien. Première demi-finale ce soir au Stade de France entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. C'est à 21h. Demain, place à l'autre demi, Afrique du Sud, Angleterre. Côté météo, le ciel restera gris cet après-midi sur l'Auvergne avec quelques pluies éparses. Les températures 14 degrés à Saint-Flour, 17 degrés à Ambert et au Puy-en-Velay, 19 à Vichy et à Clermont-Ferrand et 20 la maximale pour Montluçon. Laurent Ciovo, c'est à vous tout de suite en direct. Nous sommes toujours en direct du domaine de Pignolet à Orsine.
Effectivement, et ça fait mal comme vous l'avez dit, pas d'être au domaine de Pignolet, mais que l'équipe de France ait perdu face à l'Afrique du Sud. Stéphane, justement à propos de sport, on vous retrouve dans 4 minutes pour Destin Olympique, le temps d'écouter l'invité de la rédaction.
L'23 doit être le début d'un nouveau départ pour le site nordique de la Stèle dans le Sancy. Des aménagements doivent avoir lieu pour moderniser les installations et la préparation aussi de la station au tourisme tout saison. Nous en parlons avec notre invité.
RCF Auvergne. L'invité de la rédaction, Adrien Barraud.
Karen Super, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des sites de pleine nature à la Comcom d'Homme-Sancy-Artense. Alors, quand on parle d'aménagement à la Stèle, on parle de quoi exactement ?
Alors, on parle d'un aménagement touristique qui se fait en plusieurs phases et dont on vient de terminer la première. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit une boucle une piste de biathlon 4 saisons. Elle peut être utilisée à la fois en biathlon neige, comme on le connaît le plus souvent, et puis en version hors neige, donc en ski roue, en roller, en vélo. Et puis en parallèle de ça, on a construit un nouveau bâtiment d'accueil qui centralise tous les services touristiques, donc à la fois la vente de la redevance en période de ski, du renseignement de l'office du tourisme, de la location de matériel, des salles hors sac et puis voilà des petits services comme ça pour rendre l'équipement agréable et fonctionnel.
Aussi, le but, c'est de tendre vers du 4 saisons. Il faut créer encore plus de dynamisme sur le site. Ça devient un vrai enjeu pour des zones de moyenne montagne comme ça.
Oui, complètement. Alors, il y a deux choses. La Stèle, déjà, c'est de base un site qui est beaucoup plus connu en hiver, qui est aujourd'hui un site nordique, une des portes d'entrée du massif du Sancy, donc qui fonctionne bien en version hivernale, mais qui déjà est assez peu connu en version estivale, donc avec une dynamique qui voilà, qui manque un peu de fréquentation déjà actuellement. Et en parallèle de ça, on a évidemment la problématique du changement climatique qui fait qu'on ne peut pas se permettre de miser uniquement sur l'enneigement, qui risque d'être amené à manquer dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité effectivement se tourner vers une activité qui peut être pratiquée toute l'année. Ouais.
C'est ce qui manquait un peu sur place. La Tour d'Auvergne, effectivement, il y a tout pour se loger. Il y a cela, qu'il y a l'ambiance, il y a l'histoire. Il faut ce petit plus pour que le tourisme et l'activité économique tournent à plein pot.
Bah, c'est vrai que les gens sont quand même à la recherche d'activités un peu ludiques ou voilà qui changent un petit peu. Et on l'a vu ces dernières années, le biathlon c'est quelque chose qui a commencé à se faire connaître de plus en plus avec les exploits des athlètes français et qui commence à attirer un peu le public. Et donc on s'est dit qu'effectivement il serait intéressant de se doter de cet équipement-là qui n'existe pas du tout en Auvergne. Donc autant pour les pratiquants actuels de biathlon en Auvergne, pour qui c'est déjà compliqué de s'entraîner dans de bonnes conditions, ça va leur fournir un équipement vraiment de bonne qualité. Et puis pour les débutants, pour le grand public, de découvrir une nouvelle activité qui est assez ludique et sympa. Ouais.
Et puis ça pourrait permettre aussi d'attirer un nouveau public, justement, parce que c'est vrai que quand on pense au ski dans le massif, on pense tout de suite très facilement à Superbès, voire au Mont d'Or.
Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est un endroit couru, on va dire, l'hiver. En plus, on a les bassins de population que sont le Mont d'Or, la Bourboule et puis la Tour d'Auvergne aussi à proximité. Et on espère qu'avec cet équipement-là, ça va donner envie aussi aux gens de revenir pour plus que le tourisme soit vraiment concentré uniquement sur cette période hivernale.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'était l'invité de la rédaction. Il est 12h et bientôt 12 minutes sur RCF en Auvergne. Place à votre émission Destin Olympique. Stéphane Marcelot, vous nous invitez aujourd'hui à découvrir le parcours d'un ancien lutteur de haut niveau qui a participé à plusieurs Jeux Olympiques. Il n'est pas seul. Je vous laisse le soin de faire les présentations.
Bienvenue à tous sur RCF Destin Olympique. C'est parti, on enfile les baskets, on fait quelques tours de piste et on se prépare tous ensemble à revenir sur le parcours, la saga d'un Auvergnat des Jeux après Katharina Szabo, après Laurence Brise. Destin Olympique reçoit aujourd'hui Robert Haït-Braham. Bonjour.
Bonjour.
Ancien lutteur de haut niveau, ancien arbitre de haut niveau, vous avez connu au total 5 Olympiades. Un grand merci d'être avec nous en studio pour vous interroger à mes côtés. Jean-Pierre Moncada, secrétaire général du comité départemental olympique du Puy-de-Dôme. Bonjour Jean-Pierre.
Et bonjour.
Et Richard Roussel, co-président du cercle Pierre de Coubertin d'Auvergne. Bonjour Richard.
Bonjour.
5 Olympiades à revisiter en 12 minutes. Là messieurs, c'est plus qu'un exploit que vous m'imposez. C'est du sport, mais impossible n'est pas français. Alors Robert, on va parler de vous, bien sûr, on va parler de la lutte, l'un des sports historiques des Jeux. Richard présente la lutte depuis les Jeux antiques, depuis même les premiers Jeux de l'ère moderne.
Voilà, la lutte donc a été instaurée en 1896. C'est une discipline qui a perduré jusqu'en 2024, qui a rapporté quand même pas mal de médailles. Et un des médaillés d'or des Jeux olympiques de 1924, donc dont on va fêter le centenaire, et il s'appelle Henri de Glane et il est enterré à Chamalières. Et donc on a un fort mouvement historique autour de la lutte olympique en Auvergne à travers l'ASM et le Stade Clermontois, et Robert va nous en parler un peu mieux.
Il y a toujours eu ce lien très fort historique entre la ville de Clermont et ce sport.
Oui, il y a eu ce lien. Il y a le mémorial Roger Coulon. La lutte mondiale s'est donné rendez-vous pendant de très nombreuses années à Clermont-Ferrand. On a un stade qui s'appelle le stade Le Clancher, donc deux frères qui ont été dans la résistance et dont un a été tué, qui étaient des lutteurs de très très haut niveau. Et Marcel Michelin avait trois options quand il a monté son club: le rugby, la lutte et la natation, avec une piscine qui, à l'époque, était très très moderne. Voilà.
Il y a deux grands clubs à Clermont, le Stade Clermontois et l'ASM. Vous, Robert, vous avez connu les deux.
Oui, bien sûr. D'abord l'ASM en tant que lutteur, puisque j'ai fait pratiquement toute ma carrière d'athlète de haut niveau donc à l'ASM. Et ensuite, j'étais au Stade Clermontois en tant que lutteur, ensuite dirigeant, président du club, et aussi arbitre, bien sûr. Bien sûr. Par contre, je souhaiterais aussi souligner que sur la région clermontoise, il y a aussi Chamalières, donc qui est un grand club, qui a été de fait par ses par ces lutteurs qui ont été sélectionnés aussi aux Jeux Olympiques. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
D'où vous est venue cette passion, vous ?
Ah, la passion de la lutte, c'est le souvenir d'une compétition. Je crois que j'avais 5 ans. Ça devait être en 59-60. Mon père m'avait amené voir une rencontre Liban-France à l'ASM. Ce sport-là m'est resté ancré dans la tête. Et puis, il fallait un jour ou l'autre que je fasse de la lutte. Évidemment, il fallait que j'en fasse de la lutte.
Et très vite, vous avez pris du plaisir, en tout cas.
Oui, tout à fait. Et puis, il y avait aussi quand même dans ma famille, hein, j'avais une sœur, hein, mes frères aussi ont fait de la lutte, mais j'avais une sœur, en particulier Morissette, donc, qui a été prof de gym par la suite, qui a joué en équipe première donc à l'ASM en tant que basketteuse, avec à l'époque Edith Tavert et bien d'autres. Et donc, ma sœur Morissette m'a amené à l'entraînement. Il fallait absolument qu'il soit. Et donc, voilà, c'est un peu qui m'a mis le pied à l'étrier, sans oublier non plus là, les éducateurs sportifs qu'on avait à l'école. Et c'est là le plus important. À l'école, on avait les écoles, évidemment, Chantran, Charras, les écoles Michelin, bien sûr. On avait des éducateurs sportifs de très haut niveau. Et en particulier, je me rappelle de Marcel Duriez, l'ami Marcel, là, qui est parti il n'y a pas très longtemps, je crois. Et donc, ces gens-là, eh bien, écoutez, ils vous accrochaient au sport, ils vous donnaient envie au sport, ils vous encourageaient à faire du sport, et en particulier de la lutte.
C'est intéressant l'histoire que vous racontez là, Robert, parce que moi, je n'ai pas souvenir avoir fait de la lutte à l'école, on ne m'en a jamais proposé. Richard, est-ce que c'est quelque chose qui existe, ça, encore ou...
Non, on fait plus du tout de lutte, on en a eu fait. Parce que c'est un sport relativement intéressant sur le plan éducatif. C'est le respect de l'autre, c'est le respect de règles qui sont compliquées. Mais malheureusement, on s'est tourné maintenant vers une éducation physique beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus ludique. Mais c'est un peu dommage parce qu'un sport de défense, je pense qu'un sport de défense devrait être mis en place dans toute la scolarité d'un enfant puis d'un adolescent.
Et on profite de votre venue, Robert, évidemment, pour que vous nous aidiez aussi à bien comprendre, notamment nos auditeurs qui sont un petit peu éloignés de la sphère sportive. Il y a deux styles de lutte, libre et gréco-romaine. C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, il n'y en a pas deux, il y en a trois.
Il y en a trois.
Parce que là, vous oubliez les filles. La lutte féminine qui a...
Donc, le 20e anniversaire cette année au JO.
Qui s'est exprimée donc c'est Athènes. Athènes, avec deux médailles de bronze, Lise Legrand et Anna Gomis, autant que je me rappelle. Oui, alors en effet, donc il y a trois styles, donc il y a la lutte gréco-romaine, hein, je pense que c'est le style référence. Les premières luttes, c'était en gréco-romaine, hein, donc c'est le haut du corps. Et ensuite la lutte libre, là on a un peu attaqué sur tout le corps, les bras et les jambes, bien sûr on attaque sur les jambes, et puis la lutte féminine qui est un peu de la lutte libre, mais au niveau des filles, avec des règles un petit peu adaptées aux morphologies des filles.
Alors vous qui avez été dans l'arbitrage durant tant d'années, comment ça se passe un arbitrage de combat de lutte ? Vous êtes combien déjà ?
Alors, un combat de lutte, donc, il est dirigé par trois personnes. Donc, il y a l'arbitre au milieu, hein, c'est lui un peu le boss, hein, puisqu'il arrête et puis il fait démarrer le match. En face de lui, il y a un juge, hein, qui le suit ou qui donne le concert de ce qu'il peut dire au niveau des prix, des points. Et puis, il y a le chef de tapis. Le chef de tapis, c'est lui aussi, le patron, et qui valide donc les décisions. Mais en tous les cas, quand il y a un arbitre et puis un juge qui entre parenthèses, tient de la mer, donc il n'y a pas trop de soucis. Quoi.
Ça va, il n'y a pas trop de désaccords entre les trois. Vous êtes jamais engueulé avec des collègues arbitres ?
Non, sûrement pas.
Parce que j'imagine qu'il faut quand même un consensus entre les arbitres.
Justement, quand il y a un petit souci, eh bien, écoutez, on arrête le match. Il y a une vidéo. La vidéo existe depuis très longtemps, hein, en lutte. Et puis voilà, il y a confrontation des décisions. Et puis, point à la ligne, après, on prend une décision.
La venue vers l'arbitrage, vous, ça s'est fait naturellement, ça a mis du temps, c'est une rencontre.
Naturellement, oui et non. Oui, parce que quand on a fait une carrière de lutteur, et puis on reste quand même dans le milieu, on est éducateur, on est président, mais ensuite aussi on est arbitre, d'une part, mais d'autre part aussi, on a eu une lignée d'arbitres extraordinaires en Auvergne, faut pas les oublier, hein, et en particulier un qui s'appelait René Aurine, qui a été le patron des arbitres dans le monde, c'était un des meilleurs arbitres, évidemment, il avait une personnalité. Et puis c'était une personnalité clermontoise. Voilà. Et ensuite, il y a eu Roger Fayolle. Roger Fayolle qui a été un dirigeant, un historique dirigeant donc du Stade clermontois. Et c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier et qui m'a encouragé donc à faire de l'arbitrage.
Et vos premiers Jeux Olympiques, c'est Barcelone 1992, hein, de beaucoup d'observateurs. Ces Jeux Olympiques étaient exceptionnels de réussite, d'exploit, d'organisation. Vous l'avez vécu aussi de cette manière?
Oui et non. Oui, parce que la sélection était difficile. Hein. Les premiers Jeux, j'étais un jeune arbitre. J'arrivais dans le milieu. Et bref. Donc c'était difficile aussi quand même. On regarde, on observe. C'est pas si évident que ça. Mais par contre, c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Celui qui m'a marqué le plus, c'est celui de Pékin. Pékin avec nos trois médaillés français.
2008, on s'en souvient des frères Guénaud.
Oui.
Les frères les plus célèbres de France, l'été 2008.
Oui. Et oui, Steve champion olympique, Christophe médaille de bronze, et aussi Yannick Zepagnac, hein, en 130 kilos. Yannick qui avait soi-disant échoué, il était au pied du podium, sauf que avec les contrôles antidopage et tout, donc il y a eu un retour, et Yannick donc a récupéré sa médaille de bronze. Donc trois médailles à Pékin, on s'en rappelle, c'est sûr, ça marque. D'autant que il y avait un emblématique DTN, il s'appelait Gany Yalouz. Gany Yalouz, extraordinaire lutteur, donc avait été médaille d'argent à Atlanta. Et Gany donc était DTN et comme entraîneur, c'était donc Patrice Bourrier, champion du monde en 87. À Clermont-Ferrand.
Jean-Pierre Moncada, vous vous en souvenez de cet été 2008, ce coup de projecteur exceptionnel sur la lutte?
Bien sûr. Parce que, comme le dit Robert, la lutte, c'est emblématique au niveau des Jeux Olympiques. Ça existe depuis le début. Et quand j'entends Robert me parler de Monsieur Fayolle, moi, j'étais basketteur au Stade Clermontois, je le voyais, ce monsieur. C'était impressionnant déjà. Et tous les copains qui faisaient de la lutte, je pense à Christophe Andanson, qui est de mon âge, c'était quand même un gars qui faisait 1m97, 98. Je peux vous dire qu'il avait des bras costauds. C'était quelque chose. Et donc 2008, oui, bien sûr. C'était quand même la lutte, comme tu l'as dit, Robert. C'est quand même la lutte. On est le fief de la lutte, quoi. Comme tu l'as dit, les tatamis, ils ont quand même supporté de sacrés champions ici en Auvergne. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, même si la lutte est moins médiatisée que le basket ou le foot, c'est évident qu'ici, en Auvergne, on a eu de sacrés champions.
Vous êtes toujours licencié au Stade Clermontois aujourd'hui?
Je suis toujours licencié au Stade Clermontois, en effet.
Il y a des pépites qu'on verra demain aux Jeux Olympiques. Là, il y a des petits jeunes prometteurs.
Écoutez, tout de suite, là, c'est difficile. Hein. Je crois qu'on n'a qu'une seule. Tout de suite, là, on n'a qu'une seule, une seule sélectionnée française. Elle s'appelle Kumba Larocque. Et j'ai plaisir à rappeler que Kumba Larocque a été donc au Pôle France jeune à Serra, hein, il y a encore quelques années. Malheureusement, donc, ces Pôles France n'ont pas été reconduits en Auvergne. On ne sait pas pourquoi, mais ça, vous savez, c'est de la politique, de la base politique où tout ce qui réussit en France, eh bien, écoutez, on ne le reconduit pas. C'est dommage. En tous les cas, Kumba Larocque donc, a poursuivi sa carrière et là, donc, elle a réussi sa sélection en espérant que dans les prochains mois, on puisse avoir d'autres sélectionnés français au JO.
Merci à vous, Robert Ibrahim, d'être venu dans ce studio, d'avoir été l'invité de Destin Olympique. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci aussi à Jean-Pierre Moncada, Richard Roussel, à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Destin Olympique, une émission à suivre tous les 15 jours sur RCF en Auvergne. La transition est toute faite pour parler maintenant d'Oli Games. Bonjour Isabelle de Châtelut.
Bonjour.
Vous êtes, vous êtes responsable d'Oli Games et vous participez à ce 4e congrès national de la pastorale du sport. Alors déjà, Oli Games, ça se traduit de quelle façon? On peut traduire ça de quelle façon?
Oli Games, c'est le nom qu'a pris la mobilisation de l'Église à l'occasion des Jeux qui vont arriver en 2024. Oli, ça veut dire « saint ». Games, c'est le jeu. Donc, Holy Games, c'est vraiment le désir que porte l'Église d'accompagner un sport vrai, un sport juste, de dire que le sport est d'abord un jeu Et Holy Games, c'est vraiment l'occasion de planter la croix dans tous ces événements sportifs qui nous arrivent, que ce soit la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment et les Jeux de l'été prochain. C'est vraiment renouveler cette pastorale du sport, prendre soin du monde du sport. Voilà, chacun a ce désir d'aspirer à la sainteté. Le sport aujourd'hui a parfois certaines dérives. Donc ce mot holy, saint, il est vraiment important. Je crois que les chrétiens ont ce rôle de retravailler le sport pour lui retrouver sa valeur initiale et sa juste place.
Et alors si on se focalise sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024, justement l'Église va se mobiliser de quelle façon ?
C'est un très gros enjeu qui nous arrive. D'abord, les Jeux, c'est l'occasion de travailler l'hospitalité. On accueille 15 à 20 millions de personnes qui vont venir pour cet événement. Donc il y a un gros enjeu d'hospitalité et l'Église, elle va se positionner sur 4 axes. Le pape François, en 2018, disait « Le sport, c'est l'occasion d'une rencontre, de la formation, de la mission et de la sanctification. » Donc ces 4 axes, on les a pris. Et ce projet Holy Games prendra donc 4 formes. Le premier axe, c'est la solidarité. Et le but, c'est de faire en sorte que ces Jeux soient une occasion de fête, y compris pour les publics fragiles, pour des jeunes qui ne partiraient pas en vacances, qui seront proches des sites et qui ne vont pas pouvoir y aller. Donc faire du sport avec eux, vivre ces Jeux dans un vrai moment de fraternité. Faire en sorte aussi que les Jeux soient une occasion de fête pour les personnes fragiles en précarité. Là encore, pouvoir les emmener dans les stades, pouvoir par le sport créer de nouveaux liens, leur redonner une juste place, travailler ce rapport au corps. Donc tout ce volet de solidarité qui inclut aussi la question du handicap. Il y a un deuxième volet qui est la question éducative et culturelle. Comment éduquer les jeunes grâce au sport ? On développe notamment des outils qui permettent de travailler des valeurs du sport en lien avec la foi. On travaille aussi toute la question des visites de nos églises pour les publics qui viendront de l'étranger, comment faire visiter nos églises dans différentes langues. Il y a un troisième volet qui est le volet de la mission. Voilà, parce qu'effectivement, le sport peut être une occasion d'annoncer notre espérance, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le pape François disait, voilà, le sport, occasion de mission. Donc comment faire en sorte que nos parvis, que nos centres spirituels, que les lieux où les gens vont se déplacer soient des lieux de rencontre et d'annonce de la bonne nouvelle. Et puis le quatrième volet, c'est le volet spirituel, c'est comment accompagner par la prière cet événement pour que ce soit une occasion pour notre pays de fraternité, de rassemblement. Je crois que notre pays a vraiment besoin d'événements comme ceci pour retrouver une sérénité, pour trouver une joie d'être ensemble. On l'avait vu avec la Coupe du Monde de 98 et je crois que c'était pas qu'un feu de paille parce que la joie qu'il y avait dans la rue, la joie qu'il y avait à partager sur le sport, elle est réelle. Donc priez pour cet événement, priez pour les athlètes, priez pour les délégations qui viendront. Ben, c'est le cœur de notre métier en tant qu'Église. Donc ça va se décliner de différentes manières. Mais voilà, c'est notre mission première, c'est de prier et d'accompagner la vie spirituelle des sportifs. Il faut savoir que le seul mandat qu'on a reçu pour ces Jeux, on le reçoit de Paris 2024 et du CIO, c'est d'animer l'aumônerie sur le village des athlètes, parce que le CIO considère que l'accompagnement spirituel fait partie de l'accompagnement des athlètes. Donc c'est beau et bon de voir que voilà, c'est le mandat qui nous est confié.
Et alors Isabelle de Châtelus, vous sentez une forte mobilisation autour d'Holy Games ? Il y a de nombreux bénévoles justement qui vont s'activer durant ces JO ?
Il y a une belle mobilisation. Il y a déjà 30 diocèses en France qui ont nommé un délégué Holy Games, c'est-à-dire une personne qui, sur le diocèse, est chargée de porter des propositions localement. Donc c'est une action qui s'est vraiment lancée concrètement en juin dernier avec des initiatives sportives. Il y a eu en Ile-de-France une Pater Cup, un championnat de foot pour les prêtres. Il y a eu à la rentrée de septembre des événements autour de la Coupe du Monde de rugby, des retransmissions qui ont été l'occasion de créer des événements sur les paroisses notamment. Il y a des courses aussi, voilà, des 10 km, des 5 km qui sont organisés avec des gens qui courent avec le maillot Holy Games. Tout simplement, voilà, c'est une manière de dire sa foi, parce que dans le dos du t-shirt qui est porté par ces coureurs, voilà, il y a des paroles de Dieu qui sont comme ça. Montrer à ceux qui sont présents dans ces courses. Donc voilà, il y a déjà une belle mobilisation qui se lance. Et puis surtout, on attend une grosse mobilisation pour l'été prochain, puisqu'on espère 2300 jeunes à la suite des JMJ pour venir en Ile-de-France porter tous ces lieux qui vont être clés pour nous, les parvis de nos églises, les lieux proches des sites où voilà, le grand public sera présent. Donc on a besoin de ces jeunes qu'on essaie de mobiliser, notamment via les pastorales de jeunes.
Avec des églises accueillantes, bien sûr.
Oui, c'est très important. Il y a déjà 28 paroisses en Ile-de-France qui seront paroisses Holy Games, c'est-à-dire qu'elles seront aux couleurs d'Holy Games pour manifester la présence de l'Église pendant cet événement. Et donc, les 2300 jeunes, ben, ils viendront habiter dans ces églises. En fait, on invite tous les diocèses de France à faire venir au moins 30 jeunes qui seront hébergés dans des paroisses ou dans des foyers étudiants ou chez des, dans des aumôneries. Et donc, cette mobilisation, voilà, elle se monte et...
Belle mobilisation. Merci beaucoup, Isabelle Chaltu, d'être venue jusqu'à nous, nous avoir parlé à Holy Games. Merci beaucoup, bon congrès. Et puis peut-être à très bientôt. Voilà, nous arrivons au terme de ce direct réalisé depuis le Congrès national de la pastorale du sport. Je voudrais remercier particulièrement le père Pascal Girard, un des organisateurs de ce congrès qui se tient jusqu'à dimanche au Pignolet.